On va continuer et on va aborder la troisième problématisation du jugement de goût, qui est la problématisation foucauldienne. Alors, je crois qu'effectivement, Foucault, c'est sans doute le seul philosophe qui s'écarte de ce modèle moderne, moderne puis moderniste, qui interprète la forme indéterminée kantienne comme art. Et il est le seul donc à s'écarter véritablement de ce modèle, du moins à la fin de son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je crois, dans le travail de Foucault, il y a vraiment deux périodes. Il y a une période qui, d'une certaine façon, est encore relativement prise dans cette modernité. Et puis, il y a un moment où il s'écarte de cette constellation de pensée pour produire quelque chose d'autre. Et j'ai d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait dans un colloque une conférence qui a été republiée de Husserl dans la collection Traces écrites, et ça s'appelait Le modernisme de Foucault. Je ne sais plus comment était le titre du recueil,
La peinture de Manet.
La peinture de Manet, d'accord. Et donc, j'y montrais, au contraire, si je puis dire, au contraire de ce que je vous dis, ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'y montrais la manière dont, encore dans l'analyse que Foucault fait de la peinture de Manet dans cette conférence de Tunis, qui était un peu le point de départ de cette publication, eh bien, Foucault reste relativement greenbergien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'époque en même temps où il commence à s'intéresser aux prisons, c'est-à-dire c'est vraiment une espèce de moment de vacillement dans l'œuvre de Foucault. Et c'est en même temps le moment où il commence à s'intéresser à la photographie. Et il commence à réhabiliter l'image. Et ça, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce d'infléchissement de sa pensée. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et ce qui va fournir ce qui va servir de support à ma problématique, c'est véritablement j'aime pas dire le second Foucault, ça n'a aucun sens, mais enfin, j'allais dire cette période plus tardive où on le voit s'écarter du modernisme. Cette réinterprétation du médium de la réflexion se trouve dans un texte qui est une espèce de, dont le titre est la reprise littérale d'un ouvrage de Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? Was ist Aufklärung, What is Enlightenment ? Et vous avez deux versions d'ailleurs de ce texte de Foucault, ou plutôt vous avez deux rédactions successives, une rédaction de 83 qui est un texte au Collège de France, et vous avez ce texte-là, qui est un texte de 84, qui reprend, conceptualise et développe le premier texte, mais je vous recommande quand même d'aller voir le premier texte de 83, très, très important, qui est dans les 10 écrits. Ah oui, j'ai oublié de dire l'essentiel. Ceci se trouve dans les 10 écrits, tome 4. Voilà. En réalité, le texte de Foucault est véritablement une reprise de Kant. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut commencer par Kant, d'une certaine façon, et comprendre pourquoi Foucault avance la notion d'éthique dans ce texte sur Kant. Parce que c'est véritablement dans ce texte sur Kant que Foucault va avancer cette notion d'éthique. Et va aussi, d'ailleurs, conceptualiser ce qu'il entend par pratique. Enfin, je crois que c'est quand même un texte tout à fait majeur de la pensée de Foucault. Le texte de Kant que Foucault commente et reprend est un texte qui avait été publié en 1783 et qui était une réponse à une enquête qui était menée par la Berlinische Monatsschrift, dont une enquête avec la question « Was ist Aufklärung ?» une question qui était adressée à un certain nombre de savants, d'intellectuels, ou plutôt qui était adressée un peu à tout le monde, et Kant répond. D'ailleurs, Moses Mendelssohn répond aussi à cette question. Et vous trouvez d'ailleurs, tout simplement, au Mille et une nuits, vous avez les deux textes, le texte de Kant et le texte de Moses Mendelssohn. C'est très intéressant, c'est un tout petit livre, et c'est bien de lire les deux textes. Et je voudrais donc présenter ce texte de Kant. Apparemment, c'est un texte, c'est ce que dit Foucault, apparemment c'est un texte de circonstance relativement de Kant. Et pourtant, nous dit Foucault, c'est un texte tout à fait exceptionnel dans la tradition occidentale, parce que c'est sans doute la première occurrence dans la philosophie occidentale de ce que Foucault appelle la réflexion du présent. Donc on voit réapparaître ce motif de la réflexion du présent. c'est-à-dire la première tentative de la part d'un philosophe d'évaluer là où nous en sommes. Hein. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'Aufklärung, hein, où en sommes-nous par rapport à ce processus d'émancipation de l'humanité à l'égard du dogmatisme? Sommes-nous, hein, très concrètement, sommes-nous au début du processus, dit Kant? Sommes-nous au milieu du processus? Sommes-nous enfin à la fin du processus, hein? C'est vraiment une question, voilà. Où en sommes-nous, hein? Où en sommes-nous? Où allons-nous? D'accord, comment, question, d'où, seconde question, comment est-ce que ce processus d'Aufklärung, hein, d'éclaircissement, est-il susceptible de se développer au vu de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Alors, la situation dans laquelle nous nous trouvons en 1783, elle est extrêmement précise. C'est en fait un débat très aigu, hein, en tout cas dans le milieu intellectuel et dans le milieu aussi des théologiens, sur une question très importante, qui est la question du mariage civil. Un certain nombre de théologiens ont proposé l'institution du mariage civil. On proposait à Frédéric II, hein, l'institution du mariage civil. Et évidemment, cette proposition a entraîné un certain nombre de débats, hein, notamment de la part, évidemment, des représentants de l'Église protestante, mais également de la part des philosophes. Hein. Donc il y a toute une réflexion, finalement, peut-on dissocier le sacrement du mariage de l'institution du mariage, hein. C'est la question qui travaille la société prussienne en 1783, et c'est la raison pour laquelle Kant écrit ce texte, hein, « Was ist Aufklärung ?» Enfin, réponse à la question « Was ist Aufklärung ?» Donc sa question, c'est à quel point aujourd'hui sommes-nous capables de nous passer de maître, donc de religion, hein, sommes-nous capables de nous marier sans Dieu, hein, finalement, hein, et comment pouvons-nous effectivement favoriser ce processus qui consisterait à nous passer de maître, à devenir majeur, dit Kant. Alors, la réponse de Kant, on peut l'analyser à deux niveaux. Un premier niveau, à savoir, quelle place doit-on faire à la religion dans une société moderne, hein, et en cours d'Aufklärung, on peut dire que la réponse est relativement ambiguë. Alors, difficile de savoir exactement ce que proposerait Kant en tant que conseiller du prince, hein, dans cette occurrence. En revanche, c'est un texte absolument limpide, pour ce qui est de comprendre ce qui distingue radicalement et définitivement le dogmatisme des Lumières. Et c'est pourquoi ce texte est important. Ce qui distingue le dogmatisme des Lumières, hein, est un postulat que je définirais ainsi, hein, donc là c'est véritablement une, disons, une espèce de lecture un peu en surplomb, d'interprétation. Pour le dogmatisme, la liberté est un idéal auquel nous ne saurions satisfaire, d'où le besoin que nous avons de la religion, d'accord. Tandis que pour les Lumières, hein, pour les Aufklärers, la liberté n'est pas du tout un idéal inaccessible qui nous mettrait toujours en défaut d'une certaine façon par rapport à nous-mêmes. Nous ne sommes et nous ne voulons rien d'autre que la liberté. C'est-à-dire que la liberté est ce qui réconcilie en nous l'être et le devoir-être. Par conséquent, l'exercice de la critique, ça ne consiste pas du tout à opposer, hein, à la réalité de nos servitudes diverses, hein, l'idéal de la liberté, hein, mais l'exercice de la critique, ça consiste à analyser dans un processus réel, effectif, incontestable, de devenir libre. Hein, ce qui veut dire que, et d'un devenir libre qui est constitutif de l'humanité. Hein. Et évidemment, le positionnement de la critique se transforme complètement. Si elle parle au nom de la liberté, mais comme un espèce de point de vue, j'allais dire, transcendant, hein, j'allais dire, et inaccessible, ou si elle parle de la liberté comme ce qui me constitue. Hein, et ce qui est très intéressant, c'est que dans les écrits de Jeff Hall, et malheureusement, je n'ai pas retrouvé cette citation que je n'avais bêtement pas notée, il y a une phrase de Jeff Hall très intéressante où il dit « Si on veut repenser aujourd'hui la critique, il faut partir, hein, du hiatus, hein, entre ce que nous sommes et ce que nous voulons. » D'accord ? Et en ceci, on peut dire que Jeff Wall est un dogmatique, du point de vue de Kant. D'accord ? Puisque pour Kant, il n'y a pas de hiatus entre ce que nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes libres et nous voulons être libres. Et cet être libre et ce vouloir libre sont une seule et même chose qui se négocie dans un devenir. Ça, c'est, ça je crois que c'est une idée. Ça, c'est très important parce que ça, c'est, par exemple, ce genre d'objets, c'est des objets de décision philosophique, hein, pour chacun de nous, d'une certaine façon. Et pour Kant, le signe de ce devenir libre, de cette efficience de la liberté en nous, c'est, dit-il, non pas la Révolution française, mais c'est la réaction qu'a suscité la Révolution française, cette espèce de réaction universelle d'empathie, de sympathie, que dans tous les peuples extérieurs à la France, le spectacle de la Révolution française a provoqué. Kant a une formule assez drôle pour dire ça. Il parle d'une sympathie d'aspiration qui frise l'enthousiasme. Donc, c'est presque la chevermeraille, mais ce n'est pas tout à fait la chevermeraille. Et voilà ce que... je cite Kant, texte issu du Conflit des facultés que Foucault lui-même cite dans son... dans le texte de 84, mais dans le texte de 83. Un tel phénomène dans l'histoire de l'humanité, donc cette empathie d'aspiration qui frise l'enthousiasme, un tel phénomène dans l'histoire de l'humanité ne s'oublie plus parce qu'il a révélé dans la nature humaine une disposition, une faculté de progresser telle qu'aucune politique n'aurait pu, à force de subtilité, la dégager du cours antérieur des événements. Seule la nature et la liberté réunies dans l'espèce humaine suivant les principes internes du droit étaient en mesure de l'annoncer, encore que d'une manière indéterminée et comme un événement contingent. Donc c'est véritablement cette sympathie enthousiaste, ou presque enthousiaste, de l'humanité pour la Révolution française qui est le signe même de ce devenir libre in actu que l'on constate dans cette humanité. Et tout le texte en fait de Kant va consister dans une opposition entre deux modes d'articulation de la pratique et du discours. Le dogmatisme, nous dit-il, consiste dans le fait de vouloir conformer strictement les discours aux pratiques rituelles et aux pratiques de pensée. C'est ça le dogmatisme. Le croyant, pour prendre le cas de l'Église protestante, doit penser, pratiquer et exprimer un seul et même contenu symbolique. Tandis que l'Aufklärung, à savoir le processus d'émancipation, ça consiste dans la possibilité de dissocier en nous le discours de la pratique. C'est-à-dire, nous dit Kant, l'homme privé de l'homme public. L'homme privé, d'un côté, c'est-à-dire celui qui n'est jamais, et là c'est intéressant pour nous de voir comment Kant pense l'homme privé. L'homme privé, dit-il, c'est celui qui est un rouage dans l'espèce humaine. C'est celui qui est simplement un membre de l'espèce. L'homme privé, par définition, il obéit à la loi. C'est-à-dire que c'est sa définition. Mais l'homme public en nous, et l'homme public, Kant veut dire l'homme qui est attelé à cette tâche de savoir et qui donc est habilité à parler publiquement, précisément au nom de ce travail de connaissance qu'il effectue à la fois sur lui et sur le monde, eh bien cet homme public doit pouvoir exprimer une pensée distincte du contenu de la loi et doit pouvoir critiquer la loi. Et très concrètement, Kant propose une idée assez étonnante. Il dit au fond, un pasteur, lorsqu'il officie dans le temple, il doit évidemment simplement se contenter de représenter le contenu conventionnel du symbole. Et dans ses sermons, il doit simplement répéter la leçon de l'Église. Mais, simultanément, en tant que savant, en tant que wissende, en tant qu'homme habilité à parler en public, eh bien, il doit non moins strictement être capable d'exprimer une pensée critique à l'égard de ces symboles conventionnels. Il doit être capable d'écrire des livres où il argumente sur cette critique. Pourquoi ? Parce que dans ce travail de critique et de réinterprétation des symboles de la religion, eh bien, il invente l'avenir de la religion. Donc, le fonctionnaire hein, ou l'homme d'église, non seulement peuvent, mais ils doivent penser et parler en fonction de leur entendement, parce qu'ainsi ils ouvrent une sorte de perspective pour le savoir, et simultanément, en tant qu'homme privé, ils doivent obéir à la loi publique. C'est-à-dire qu'en tant que responsable, ils doivent obéir, et en tant que savant, eh bien, ils doivent produire un discours qui transgresse ce qu'ils disent en tant qu'homme privé, fonctionnaire, pasteur, etc. Vous voyez cette construction, on retrouve hein, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette construction du sujet sur un clivage, mais un clivage assumé, un clivage travaillé, un clivage élaboré. Et j'en viens maintenant au texte de Foucault. Vous comprendrez pourquoi j'ai introduit de cette façon-là le texte de Kant, sur lequel il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire. J'en viens au texte de Foucault, mais dans cette première présentation du texte de Foucault, que je continuerai la semaine prochaine en introduction à la conférence de Françoise Gaillard, hein, qui abordera la question Habermas-Foucault, et que je continuerai la semaine suivante encore, et au cours de l'intervention d'un peintre français contemporain, Dominique Figarella, qui viendra nous parler de la question de la pratique et du jugement. D'accord ? Hein, donc, pour aujourd'hui, je vous donne plutôt les cadres, hein, je vous rappelle le contenu du texte, je vous donne des pistes comme ça, que je développerai la semaine prochaine. D'accord ? Parce que je ne veux pas... ça m'intéresse que dans les séances suivantes, on ait un minimum d'interactivité dans le travail intellectuel. Alors, ce texte de Foucault, donc, Vasiste Aufklärung, c'est un texte qui, en fait, est une espèce de décalque du texte de Kant. Hein, c'est ça qui est important. C'est pourquoi il faut relire le texte de Kant, hein, qui est un texte très court. Alors, ce que Foucault pose en préalable de cet essai, c'est que la modernité de l'essai de Kant se trouve dans la question qu'il pose et que Foucault résume ainsi, qu'en est-il aujourd'hui de l'aujourd'hui ? Et la manière dont Kant pose cette question, indépendamment de toute téléologie historique et indépendamment de tout projet historique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de manière de poser, très frontale de poser cette question, qu'en est-il aujourd'hui de l'aujourd'hui, sans aucune espèce de considération du programme dans lequel nous serions pris ou de ce que nous désirerions pour notre avenir. Foucault va définir la modernité, ce qu'il entend par Aufklärung, hein, et qu'il traduit par modernité, c'est-à-dire l'émancipation, à partir de cette question. Et il dit, au fond, Kant est véritablement moderne, hein, ce qui fait de Kant véritablement un Aufklärer, et même l'Aufklärer par excellence, c'est cette attitude qui consiste à s'interroger sans idée a priori du progrès sur sa propre modernité. Donc, la modernité, dit-il, se caractérise, hein, l'attitude moderne, hein, la modernité donc n'est pas un contenu, c'est une attitude. C'est une manière de se positionner par rapport à son propre présent. C'est une manière de réfléchir le présent. C'est véritablement le motif de tout cet essai. Eh bien, cette attitude ne se réfère à aucune espèce d'idée de ce que ce serait que la modernité. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de cette fausse question qui est moderne, qui n'est pas moderne, qu'est-ce que c'est que la modernité, etc. Vous savez, toutes ces choses qui nous bassinent, véritablement. Mais on dit, voilà, la modernité est une attitude. Et je cite Foucault là, vous trouvez page 568. « Par attitude, dit-il, je veux dire un mode de relation à l'égard de l'actualité, un choix volontaire qui est fait par certains, enfin, une manière de penser et de sentir, hein, très important, vous voyez, le sentir arrive tout de suite, une manière d'agir et de se conduire qui marque une appartenance et se présente comme une tâche. Hein, c'est-à-dire à la fois, j'appartiens à l'aujourd'hui et je construis l'aujourd'hui. J'y appartiens pour autant que je le construis. Et c'est ça qui fait de moi un sujet moderne. et un sujet éclairé. Hein, et dans ce texte, c'est intéressant que, disons, par un effet, disons, philologique tout à fait compréhensible, hein, les Lumières, c'est la modernité, quand même. Hein. Mais pas en un sens historique. C'est là où on voit que Foucault n'est pas un historien. Alors, là, maintenant, je vais vous rapidement vous résumer la thèse de Foucault, qui n'est pas très complexe, en fait. Hein. La modernité, nous dit donc Foucault, hein, donc c'est une attitude qui consiste en fait dans un certain style de question, qu'en est-il aujourd'hui de l'aujourd'hui, et c'est donc, au fond, un certain acte performatif en tant qu'attitude. C'est-à-dire, il suffit de le dire, hein, ça se dit et ça se fait à la fois. C'est une certaine, un certain positionnement, une certaine adresse à soi-même quant à sa position dans le temps. Nous, modernes, nous dit Foucault, hein, nous nous définissons par la conscience que nous avons d'être ici et maintenant, et donc la conscience que nous avons d'être ici et maintenant. Hein, voilà, on est hic et nunc. Hein, c'est ça qui nous définit. Hein, voilà, chose déjà très difficile. Hein, voilà, être ici et maintenant et pas hier ou demain. Hein, voilà, première chose. Et le sentiment de devoir être à la hauteur de cette conscience. D'accord. Conscience d'être ici et maintenant et sentiment qu'il faut être en plus à la hauteur de cette conscience. C'est-à-dire qu'elle nous impose une certaine tâche, cette conscience, grâce à l'exploration des possibles de ce que nous pouvons être singulièrement aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de se dire « je suis ici et maintenant » pour dire « ben voilà, c'est comme ça ». Il s'agit de se dire « je suis ici et maintenant » et ceci implique une certaine tâche qui est d'expérimenter les possibilités qui pourraient faire en sorte que cet « ici et maintenant » soit précisément différent de l'ici et maintenant d'hier et de l'ici et maintenant de demain. Et c'est ça la tâche. Et cette tâche, évidemment, elle se définit d'une part en fonction des capacités que nous avons, techniques, savoir, etc. Et en fonction des pouvoirs que ces capacités nous donne à la fois sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Donc, quand Foucault développe ainsi l'idée, il dit au fond, cette réflexion du présent, elle consiste dans une réflexion des capacités dans les relations de pouvoir, quels sont les pouvoirs que me donnent mes savoirs, finalement, et inversement, des relations de pouvoir dans les capacités. À partir du moment où je conçois les pouvoirs que me donnent mes savoirs, hein, je dois aussi réfléchir à la manière dont ces pouvoirs sont des pouvoirs qui se retournent contre moi et définissent un certain nombre de rapports entre les pouvoirs et les savoirs. Et donc c'est dans cette réflexion du savoir sur le pouvoir et du pouvoir sur le savoir, hein, c'est dans ce cercle, que va se définir la tâche du sujet moderne. Alors je voudrais vous lire, hein, parce que là c'est évidemment une synthèse maladroite, je vous lis le passage, et on reviendra évidemment, l'essentiel du séminaire ça va être de réfléchir sur ses savoirs et ses pouvoirs, hein, mais on y viendra dans un deuxième temps. Donc page 575-576... voilà, il dit au fond, on sait que la grande promesse ou le grand espoir du XVIIIe siècle ou d'une partie du XVIIIe siècle était dans la croissance simultanée et proportionnelle de la capacité technique à agir sur les choses et de la liberté des individus les uns par rapport aux autres. D'ailleurs, on peut voir qu'à travers toute l'histoire des sociétés occidentales, c'est peut-être là que se trouve la racine de leur singulière destinée historique, si particulière, si différente des autres, dans sa trajectoire et si universalisante, dominante par rapport aux autres, l'acquisition des capacités et la lutte pour la liberté ont constitué des éléments permanents. Or, les relations entre croissance des capacités et croissance de l'autonomie ne sont pas aussi simples que le XVIIIe siècle pouvait le croire. on a pu voir quelles formes de relations de pouvoir étaient véhiculées à travers des technologies diverses, qu'il s'agisse des productions à fins économiques, d'institutions à fins de régulation sociale, de techniques de communication. Il est clair, nous nous sommes habitués évidemment à l'idée des sociétés de contrôle, c'est-à-dire que toutes les technologies que nous développons, qui sont a priori des technologies d'émancipation, sont simultanément des technologies de contrôle, et donc des technologies d'oppression. C'est tellement évident que pour nous, les disciplines à la fois collectives et individuelles, les procédures de normalisation exercées au nom du pouvoir de l'État, des exigences de la société ou des régions de la population en sont les exemples. L'enjeu est donc, et c'est ça la phrase importante, comment déconnecter la croissance des capacités et l'intensification des relations de pouvoir. Parce que plus nous disposons de capacités, plus les relations de pouvoir, évidemment, s'intensifient, c'est-à-dire fabriquent de l'oppression. Et il s'agit donc de faire en sorte que ces capacités se réfléchissent dans des pouvoirs, réfléchissent leurs pouvoirs de telle manière que ces pouvoirs produisent de nouvelles capacités, c'est-à-dire de nouveaux possibles. C'est ça l'idée de Foucault. Alors, ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est que c'est une manière, au fond, de retourner Kant, puisque chez Kant, on peut dire que l'exercice de la critique, ça consistait essentiellement à limiter, j'allais dire, le sentiment de toute puissance de la raison. Et ça consistait essentiellement à dire à la raison, eh bien voilà, il y a des objets auxquels tu dois renoncer. Tandis que pour Foucault, la critique et l'exercice du jugement, ça va consister au contraire, comme il le dit, à ouvrir des possibilités positives pour l'exercice de la critique. Et je vous lis ce passage, c'est page 574. Pour l'instant, j'ai envie de vous lire des choses pour vous faire rentrer dans le texte. Si la question kantienne était de savoir quelles limites la connaissance doit renoncer à franchir, il me semble que la question critique aujourd'hui doit être retournée en question positive. Dans ce qui nous est donné comme universel, nécessaire, obligatoire, quelle est la part de ce qui est singulier, contingent et dû à des contraintes arbitraires ? Il s'agit en somme de transformer la critique exercée dans la forme de la limitation nécessaire en une critique pratique dans la forme du franchissement possible. D'accord ? Vous voyez le. C'est-à-dire finalement, on va utiliser la même formule épistémologique, non pas pour se limiter, mais au contraire pour concevoir quelles sont les transgressions. D'accord ? Et on va utiliser finalement l'universalité, ce que Kant présente comme universel, on va tenter de le penser comme le contingent, comme ce qu'il est possible de transgresser. Je vous lis un petit peu plus loin. Cette critique, dit-il, sera généalogique, en ce sens qu'elle ne déduira pas de la forme de ce que nous sommes ce qu'il nous est impossible de faire ou de connaître, comme chez Kant. Mais elle dégagera de la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes, la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou pensons. Ça, c'est véritablement le programme de Foucault. Je crois que on peut dire que presque tout le dernier Foucault est dans cette phrase. Donc, la politique, de la critique foucaldienne, consiste à analyser la manière dont nos savoirs construisent des modes de pouvoir sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes, à enquêter pratiquement sur ce que ces savoirs nous permettent d'articuler en termes de relations de pouvoir, de manière à être capable de produire la formule épistémologique de ces relations de pouvoir, de les transformer donc en connaissance de nous-mêmes, et via cette connaissance de nous-mêmes, en capacité nouvelle. Donc il s'agit au fond d'être capable d'analyser la façon dont nos savoirs impliquent très concrètement, très pratiquement, un certain nombre de relations de pouvoir, et dont finalement la connaissance, la formulation scientifique de ces relations de pouvoir est une manière de savoir qui nous sommes en réalité. Qu'est-ce que nous faisons quand nous connaissons dans ces processus de connaissance? Quel type de pouvoir nous engageons? De telle sorte que nous soyons capables de dépasser cet état, qu'il y ait une espèce de critique ontologique de l'humanité au fur et à mesure que se réfléchissant et réfléchissant les pouvoirs qui sont inclus dans ses savoirs, elle puisse se transformer elle-même. Et Foucault nous dit, cette réflexion, elle ne peut pas s'opérer immédiatement. Et c'est là où on retrouve Kant. Cette réflexion du présent, cette réflexion des capacités dans les pouvoirs et des pouvoirs en capacité, elle ne peut pas s'opérer immédiatement. Elle suppose une médiation. Et cette médiation, c'est la pratique. C'est-à-dire que là où Kant mettait de la forme indéterminée, eh bien Foucault va introduire de la pratique. Et c'est là la troisième problématisation du jugement. Elle suppose que cette réflexion du présent, elle suppose que ces savoirs, nous en éprouvions, mais matériellement, la capacité, ce qui veut dire que nous les pratiquions, ces savoirs, de manière à faire l'expérience des pouvoirs qu'ils nous donnent. Ce qui veut dire donc que le médium de la réflexion du présent, c'est l'épreuve de la capacité qui est impliquée, du pouvoir, excusez-moi, impliqué par le savoir, et des capacités potentielles contenues dans ce pouvoir même. Donc cette modernité, elle est expérimentale. Elle est non seulement, c'est une modernité d'attitude, une modernité performative, une modernité expérimentale, et le médium de la réflexion du présent, c'est la pratique. Pour redire la même chose en termes kantiens, dans les termes que nous avons utilisés lors de la première partie de la séance, le médium du jugement qui rapporte nos intuitions du monde à la connaissance de nous-mêmes, ce n'est pas la forme comme chez Kant, ce n'est pas l'art comme chez Jeff Wall et ses prédécesseurs, c'est la pratique. Et je voudrais vous lire un tout petit passage. Non, mais en fait, je vous l'ai déjà lu. Donc, c'est bien. Pour autant, pourquoi je dis que c'est véritablement la réélaboration du jugement esthétique de Kant, c'est que précisément, cette réflexion du savoir en pouvoir, du pouvoir en connaissance de nous-mêmes et de la connaissance de nous-mêmes en nouvelles capacités, cette espèce de cycle que programme Foucault, eh bien, il passe par le terrain de l'esthétique. Et c'est ce que montre dans le texte Vasista Aufklärung l'articulation extrêmement surprenante entre le jugement de Kant et le dandysme baudelairien, qui est une espèce de transition extrêmement bizarre, apparemment, sauf qu'elle nous indique très précisément que ce jugement dont il est question, cette réflexion du présent, et le jugement qui procède de cette réflexion du présent, eh bien, c'est un jugement esthétique, et que nous demeurons dans le cadre de ce que Kant appelle le jugement de goût. Je voudrais vous lire rapidement un passage qui vous l'indiquera à propos de Baudelaire. Pour Baudelaire, dit-il, la modernité n'est pas simplement forme de rapport au présent. Donc vous voyez, c'est le petit plus ajouté par Baudelaire à Kant. C'est aussi un mode de rapport qu'il faut établir à soi-même. Et donc vous voyez que ce que Baudelaire va permettre d'éclairer chez Kant, qui permet à Foucault d'inventer, finalement, de réinventer le jugement de Kant, mais sur des bases nouvelles, qui ne sont plus, évidemment, les bases de la finalité sans fin transcendantale kantienne, c'est le mode de rapport qu'il faut établir à soi-même, tel que Baudelaire le pense à travers le dandysme. Et il continue. « L'attitude volontaire de modernité est liée à un ascétisme indispensable. Être moderne, ce n'est pas s'accepter soi-même tel qu'on est dans le flux de moments qui passent. C'est se prendre soi-même comme objet d'une élaboration complexe et dure. Ce que Baudelaire appelle, selon le vocabulaire de l'époque, le dandysme. Je ne rappellerai pas des pages qui sont trop connues. Vous connaissez tous l'essai sur le dandysme. celle sur la nature grossière, terrestre, immonde, celle sur la révolte indispensable de l'homme par rapport à lui-même, celle sur la doctrine de l'élégance, qui impose à ses ambitieux et humbles sectaires, hein, citation de Baudelaire, une discipline plus despotique que les plus terribles des religions. Les pages enfin sur l'ascétisme du dandy, qui fait de son corps, de son comportement, de ses sentiments et passions, de son existence, une œuvre d'art. L'homme moderne, pour Baudelaire, n'est pas celui qui part à la découverte de lui-même, de ses secrets et de sa vérité cachée. Il est celui qui cherche à s'inventer lui-même. Cette modernité ne libère pas l'homme en son être propre, elle l'astreint à la tâche de s'élaborer lui-même. Donc vous voyez que, en définissant finalement cette connaissance de soi comme pratique de soi, comme invention de soi, hein, ou sculpture de soi, alors bon, il y a évidemment des milliers de pages écrites sur cette question, hein, eh bien, Foucault, hein, réélabore finalement la notion de médium de la réflexion. Donc ce n'est pas dans la contemplation d'une forme indéterminée, hein, qu'a lieu la production du sentiment. La production du sentiment, hein, qui permet le jugement esthétique, le plaisir ou le déplaisir, se produit, hein, dans la pratique de soi. Alors évidemment, que cette pratique de soi soit au cœur de la pratique artistique, c'est évidemment c'est quelque chose d'absolument évident. Et c'est sur cette question que j'aimerais que les artistes que j'ai invités, évidemment, nous éclairent. Hein. Je n'en dis pas plus, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'élaborer cette chose-là avec justement les artistes que j'ai invités, et le premier étant Dominique Figuerella dans 15 jours, mais je vous recommande quand même évidemment de vous reporter à ce texte, de lire le texte de Baudelaire sur le dandysme, hein, qui se trouve dans... le pain de la vie moderne, si je ne m'abuse, et de méditer sur ces deux textes. Donc on voit que, comme chez Kant, hein, ce qui est au cœur de cette notion de médium de la réflexion chez Foucault, à travers l'idée de la pratique de soi, hein, cette idée de l'ascèse, hein, c'est cette notion kantienne sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure, qui est la notion du pouvoir de désirer. Parce que le dandysme, c'est ça. C'est l'idée que le désir, c'est pas un fatum, hein, c'est pas une espèce de dehors en moi-même, hein, une espèce de destin, d'accord, que j'aurais à supporter et à gérer le moins mal possible. Hein. Le désir, hein, c'est un pouvoir, et c'est un pouvoir réfléchissant, en l'occurrence un pouvoir qui se réfléchit dans une pratique. Et, me semble-t-il, hein, c'est cette idée du désir comme pouvoir, et non du désir comme fatum, qui fait de Foucault véritablement un Aufklärer, au sens que Kant a pu donner à ce mot, là où Jeff Wall, a contrario, à travers la phrase que je citais tout à l'heure, hein, la critique c'est de mesurer l'hiatus entre ce que nous sommes et ce que nous voulons, apparaît soudain, effectivement, pris dans une conception du désir comme excès, comme dehors, comme destin, qui est au fond la conception du désir qui a dominé quasiment toute la modernité. Hein. L'idée que le désir vous tombe un peu sur la tête, hein, comme une espèce de contraire du pouvoir. Hein. Et on s'aperçoit d'ailleurs que dès les analyses des mots et des choses, ce que Kant essaie de faire, il essaie de donner un statut à ce dehors. Hein. Et il montre que ce dehors, il fait partie d'une épistémologie, d'un discours, d'un savoir, de pouvoir, hein, et qu'il donne lieu à des énoncés, hein, qui doivent être étudiés comme les articulations d'un certain champ épistémologique, hein, et donc, en réalité, comme un certain pouvoir, hein, et non pas comme cette espèce d'excès. Hein. Et c'est intéressant parce que dans les mots et les choses, le vocabulaire de Foucault reste un vocabulaire, j'allais dire, très moderne, hein, au sens où il parle beaucoup, il y a un côté assez bataillant dans ce texte, et en même temps, la procédure intellectuelle qui est mise en place, hein, cette idée de construire l'avènement du désir dans la pensée, comme un moment épistémologique, hein, ça va tout à fait à l'encontre, hein, de cette terminologie post-bataille ou post-Blanchot. Hein. Foucault est un Aufklärer au sens où pour lui la transgression, hein, est une méthode. Hein. La transgression, c'est pas du tout l'expression d'une autre raison que la raison en moi, hein, cette raison du désir. Hein. La transgression, c'est une méthode pratique qui consiste en réalité à pousser un certain mode d'individuation au-delà de sa formule épistémologique actuelle pour mieux connaître ses implications et pour améliorer d'une certaine façon cette formule épistémologique. Donc on est vraiment dans une problématique de la connaissance. Il s'agit de faire progresser la connaissance. L'individuation ne s'opère que par le progrès de la connaissance, et ce progrès de la connaissance, il passe par la transgression, mais par une transgression méthodique, par une transgression expérimentale, et pas du tout par une transgression, j'allais dire, subie, ou une transgression, j'allais dire, qui serait une espèce de défi à Dieu, à la nature, etc. Et cette méthode transgressive repose sur l'activité réfléchissante, c'est-à-dire repose sur la possibilité pour la pratique de produire de la conscience sous la forme de nouvelles pratiques et de nouveaux savoirs. Alors, évidemment, parenthèse, on voit bien pourquoi Foucault, à la fin de sa vie, Foucault se tourne vers cette histoire de la sexualité. Parce que on peut dire que là, cette description que je fais de Foucault à Aufklärer, je pourrais aussi bien la faire de Freud à Aufklärer. C'est-à-dire, c'est exactement la position qu'a Freud. C'est-à-dire que Freud est celui qui, d'une certaine façon, conceptualise l'inconscient, mais qui en même temps le démystifie complètement. Et qui, dans l'invention de la clinique analytique, met l'accent sur, la question de la conscience, et pas la question de l'inconscient. Il s'agit, dans la résolution du transfert, il s'agit d'un avènement de la conscience, sous des formes d'ailleurs, comme chez Kant, qui ne sont pas forcément des formes rationnelles, sous des formes qui peuvent être des sentiments. Et on voit que certainement qu'un des ennemis les plus précis de Foucault, d'ailleurs il le dit, il le dit pas tout à fait comme ça, et pourtant je crois que c'est bien la question dans le dialogue Foucault-Freud que vous retrouvez dans l'introduction naturellement de l'histoire de la sexualité, que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment en plein dans le sujet, dans le dialogue Foucault-Freud, ou plutôt dans la critique de Foucault contre Freud, le centre du débat, c'est qui de nous deux est un Aufklärer. C'est véritablement la question de l'Aufklärung et de la définition de l'Aufklärer. Et ça, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine, ou du moins je le souhaite, avec Françoise Gaillard, qui viendra nous parler de Habermas-Foucault, parce que je pense que ça, c'est aussi un aspect important, la psychanalyse et le rapport à Freud, du dialogue Habermas-Foucault. Au fond, de même qu'il est très important, lorsqu'on analyse les textes métapsychologiques de Freud, de s'appuyer toujours sur les textes du même Freud contemporain sur la question du transfert et la question de la clinique, de la même façon, il est très important d'appuyer les textes de Foucault sur les prisons, sur l'homosexualité, de les appuyer sur cette notion de jugement et sur cette notion de pouvoir de désirer. C'est-à-dire, avec cette idée que le cœur du problème, ce n'est pas la transgression dans sa factualité. Le cœur du problème, c'est la réflexion pratique de cette transgression. Alors ça, évidemment, dans les 10 écrits, tome 4, quasiment tous les textes de Foucault témoignent de ceci. Ce qui est essentiel, c'est la réflexion pratique de la transgression et pas la transgression pour la transgression. D'où les distances que Foucault a prises à l'égard d'un certain nombre de mouvements gays de l'époque. Et lisez, moi, je crois qu'il faut avoir ces 10 écrits, il faut les lire très, très systématiquement. Voilà, alors je voudrais conclure, simplement en vous donnant une dernière référence bibliographique qui va me servir de coda, qui est le petit livre de John Rashman que vous aurez dans la bibliographie, qui s'appelle « The Freedom of Philosophy », qui est un livre absolument excellent, et je vous conseille vraiment de le lire. Il n'est pas traduit en français, mais il est traduit en français. Alors, dans ce cas-là, c'est celui dont tu me parlais. Donc il est traduit au PUF, c'est ça, Georges ? Voilà, en français. Et vous avez un chapitre qui s'intitule « The Ends of Modernism », les fins du modernisme, qui est très intéressant, dans lequel, au fond, Rashman montre à quel point Foucault est en marge de la philosophie française de son époque, en tant que celle-ci est vraiment toujours et encore héritière de l'interprétation romantique de Kant. C'est-à-dire qu'il va être vraiment le premier à renoncer à l'idée que la réflexion du présent, par laquelle, au fond, transitent les ellipses de l'individuation, elle aurait lieu dans l'art en tant que lieu de la transgression, que lieu par excellence de la transgression. Et on voit effectivement Foucault abandonner progressivement la problématique du tableau comme la problématique de l'écriture. C'est intéressant. On le voit finalement quitter le terrain du modernisme et du formalisme. Et dans les années 80, on le voit s'intéresser d'une part à l'image, donc quitter complètement l'idée du médium se réfléchissant lui-même, etc., et définir ce qu'il appelle l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire l'intellectuel qui rompt avec la tradition de l'homme de lettres, de l'essayiste, du philosophe artiste, etc. Et la peur de Foucault, ce qu'il perçoit très bien, c'est que dans ce formalisme, dans cette relecture romantique de Kant, dans cette volonté de penser toujours le jugement à partir du médium de l'art, et dans cette croyance que l'art aurait une espèce de vertu critique immanente, ce qui est évité, c'est la politique. Et on pourrait dire, et là je reprends une formule que je trouve excellente de Rajmann, il dit au fond, Foucault est celui qui a su passer de la politique de la forme, qui était pratiquée par les modernistes, à une politique des formes. Et je trouve la formule très juste. Et cette politique des formes, c'est ce qu'il appelle une éthique. Et c'est parce qu'il quitte donc la politique de la forme qu'il va rompre finalement avec cette idée qui a porté toute la modernité au XIXe et au XXe siècle, l'idée qu'au fond, le mouvement de la réflexion s'illustrerait dans le langage. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, ce qu'on a observé dans la modernité, c'est que progressivement, le motif du jugement est passé à l'arrière-plan. On a un peu finalement oublié le jugement en soi pour se crisper sur cette réflexivité du médium. C'est-à-dire, au lieu de penser quel est le médium de la réflexion, on a pensé finalement la réflexion comme médium. C'est ça un petit peu cette espèce de perversion de Kant par les romantiques et les post-romantiques. Et c'est ainsi que Rajmann dit, il dit, je traduis, et donc c'est certainement mal traduit, mais enfin je pense que c'est à peu près juste comme traduction, ce que remarque Foucault, c'est que même dans la pensée et même dans le langage, le langage, loin d'introduire une forme nouvelle, a perdu toute centralité. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée même que le langage serait le médium de la pensée devient problématique aujourd'hui. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est au regard des technologies contemporaines, c'est une idée tout à fait juste, enfin je veux dire presque prémonitoire. Nous dit Rajmann, pour Foucault, la question c'est d'expérimenter dans les différents champs de l'activité humaine, c'est-à-dire de manière, alors on dit locale, localement, c'est d'expérimenter la réflexion des discours en pratique et des pratiques en discours, et là je le cite, pour écrire une histoire du présent, c'est faire attention à la constitution de ces objets, les pratiques et les discours, aux conséquences de ces constitutions, et ainsi de permettre à notre modernité de changer. Il n'y a pas chez Foucault de tentative faite pour prédéterminer ce que pourrait bien être ce changement. Nous sommes commis à aucune espèce de schéma général de transformation. Nous ne sommes commis à aucune espèce d'alternative unique. C'est-à-dire qu'au fond, le champ est absolument ouvert dans ce processus de réflexion du présent. Il y a autant d'alternatives que de lieux, de possibles, que de lieux de la réflexion, dans la mesure où chaque lieu de la réflexion documente un mode d'individuation spécifique. Et donc, ce n'est pas du tout à l'art qu'on va confier l'activité du jugement et de la critique, mais c'est à toutes les pratiques, toute espèce de pratique est productrice de jugement, et ces jugements sont des jugements esthétiques, au sens de Kant. C'est-à-dire, ce sont des jugements qui font appel, qui ont cette forme médiate qu'a le jugement esthétique chez Kant. Et donc, parmi les modes de réflexion, on trouve bien sûr l'art, mais on trouve aussi bien l'homosexualité. Et d'une certaine façon, c'est la mort de l'avant-garde. hein, que programme Foucault, de manière tout à fait consciente. Et je vous lis encore une fois une citation de Rajman, hein, la fonction d'auteur, ce qu'on a appelé, en fait, il faudrait traduire comme ça, ce qu'on a appelé la fonction de l'auteur appartient à un champ très large de pratiques individualisantes. L'écrivain et le critique, maintenant, rejoignent la politique intellectuelle sous toutes ses formes, les politiques de la problématisation de la subjectivité sont un espèce de challenge, sont un défi pour une culture qui serait à la fois individualisante et universalisante. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, dans ce individualisant et universalisant, dans cette simultanéité, c'est qu'on retrouve ce dont nous sommes partis. Du jugement de goût, qui est un jugement incomparable et unique, nous dit Kant, et en même temps qui convoque en nous l'universel. Donc on voit qu'on a véritablement là une filiation très précise par rapport à Kant. Dans ces deux termes, donc de individualisant et universalisant, qui sont appliqués tous les deux par Foucault à la question de la problématisation de la subjectivité, eh bien, on tient l'inscription de la pensée de Foucault dans la question du jugement esthétique, qui est à la fois singulier et qui mobilise en nous l'universel sous la forme de nos facultés, de la mise en jeu de nos facultés de connaissance. Donc vous voyez que Foucault, pour penser la pratique artistique, signifie Foucault pour sortir la pratique artistique de sa spécialité ou de sa spécificité artistico-artistique et essayer de la penser dans un contexte beaucoup plus large, beaucoup plus global. Donc je m'arrête là. Je crois que il est 5 heures. On a quand même une demi-heure de questions. À vous de jouer, si je puis dire. Alors, je sais bien que c'est toujours un peu difficile d'enchaîner au bout de 2h30, mais vous avez un micro et voilà.
Donc pour répondre aux exigences, je m'appelle Frédéric Pouillaud. Merci pour cet exposé qui m'a beaucoup fait réfléchir. J'aurais deux axes ou deux remarques ou deux pistes. La première, j'ai été absolument frappé par le caractère fascinant et en même temps intenable de la formule de Jeff Wall. L'expérience esthétique nous forme, nous transforme, etc. C'est pourquoi on a besoin d'art, qui est vis-à-vis de Kant, qui en soi est une faute logique, et vis-à-vis de Kant un contresens presque volontaire, on suppose. Et plus largement, j'ai le sentiment même que la position de Jeff Wall était intenable dans sa reprise de Kant, sauf justement, comme vous le proposez, en mobilisant ce concept de pratique foucaldien. Parce que s'il n'y a pas ce concept-là, au bout du compte, on ne voit pas dans quelle mesure la réactivation de Kant peut échapper à un schème moderniste. C'est-à-dire que je reprends rapidement la petite périodisation que vous proposez du moment où arrive Jeff Wall. Il y aurait d'abord eu le modernisme et les avant-gardes qui croient encore au sérieux social et politique de l'art, qui s'adosse également à l'idée d'une autonomie. Alors, on ne sait pas comment on peut avoir une efficace dans le monde et être autonome, mais ça c'est le problème. Après, il y a l'art conceptuel qui, prenant conscience des impasses ou des déceptions, sombre dans une ironie facile et légère, et il y aurait l'exigence d'un retour au sérieux de l'art. Et ce sérieux se ferait chez Wall par un retour à la question de l'expérience esthétique et du jugement chez Kant. En même temps, on sait tous à quel point le modernisme, à la Greenberg notamment, est fondé sur un certain kantisme qui est celui du criticisme. On entend par moderne une pratique qui se pose les conditions de légitimité de sa propre pratique, et c'est ça qu'on entend par critique quand on entend Kant, et d'autre part le formalisme. Comment un champ du modernisme en art, effectivement, trouve une certaine forme de légitimation dans ces paragraphes 14 ou 15 de la CFJ sur la forme. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de reprendre Kant pour échapper à la fois au modernisme et à ses échecs et à la frivolité ou plutôt à l'ironie de l'art conceptuel? C'est pas reprendre le formalisme ni le criticisme dans son sens technique d'auto-légitimation d'une pratique, mais c'est aller vers son cœur même qui serait l'expérience esthétique et le jugement. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne voit pas nécessairement ce que l'art a à faire là-dedans, si on suit Kant. Du coup, si le cœur c'est l'expérience esthétique ou l'expérience du jugement en tant qu'il me forme ou en tant qu'il me fait expérimenter l'harmonie des facultés, du coup, la fleur, enfin, on sait tout ça, que Kant ne parle presque pas de l'art, entre les paragraphes 43-49, et qu'en outre, l'expérience esthétique dans l'art est bien souvent une forme de dépréciation, enfin de perte par rapport à l'expérience naturelle. Et que c'est seulement par le modernisme qu'on peut faire du Kant avec de l'art, voilà. Mais si on revient au cœur comme expérience esthétique, on se dit, face à Jeff Wall, pourquoi l'art ? Pourquoi l'art ? Et je me disais qu'effectivement, c'est seulement par ce concept de pratique élargie, ce concept de pratique italien qui élargit le champ de l'expérience réflexive du jugement et de l'expérience comme lieu de subjectivation, qu'on peut à la fois parler de l'art là-dedans sans se heurter en permanence à la rupture, grosso modo, entre celui qui fait et celui qui reçoit, celui qui produit, et entre le sujet de l'expérience, l'objet de l'expérience, le récepteur. Mais à ce moment-là, bref, non, penser l'expérience même, dans sa plus grande généralité, comme une pratique où il n'y aurait pas de solution de continuité entre, qui est celle-là même que pose un certain moment moderne de l'art, entre celui qui fait et celui qui reçoit. De sorte que voir un tableau, c'est une pratique au même titre que le peindre. Mais à ce moment-là, on est dans un champ extrêmement vaste, qui est celui de Foucault, qu'on peut, grosso modo, ce qu'on pourrait appeler, et là je fais une boucle directe vers la toute fin, l'esthétique de l'existence, les esthétiques de l'existence. Et là-dessus, j'avais juste une remarque, une question. Pourquoi... une remarque. À la fois, j'étais frappé de voir comment, dans votre exposé de Qu'est-ce que les Lumières, c'est depuis une question sur la modernité qu'arrive la question de la pratique. Et à partir de là, du dandisme, ou presque, de l'esthétisation de l'existence. Et comment ça, c'est une chose profondément moderne. Et comment, paradoxalement, dans le moment où ça devient massif chez Foucault, donc entre le tome 1 et le tome 2 de l'histoire de la sexualité, quand il arrête de faire une histoire des dispositifs de contrôle au 19e siècle, et qu'il se pose la question, cette fois, de la subjectivation, de la pratique comme subjectivation, il revient aux morales anciennes. À l'ascétisme antique des épicuriens, des stoïciens. Et là, c'était vraiment une question, mais comment, si c'est depuis ce concept de pratique articulé à une esthétique de l'existence ou du jugement que l'on porte sur sa propre vie, etc., je me demande malgré tout si c'est les deux derniers tomes de l'histoire de la sexualité, non pas dans ce qu'ils disent éthiquement, comme aussi ouvrage d'histoire de la philosophie d'un moment, mais plutôt comme moment de bascule dans le, chez Foucault lui-même, sont pas à creuser profondément autour du lien entre pratique et subjectivation. Voilà, j'ai fait beaucoup de boucles et je pose pas vraiment de questions, mais j'avais vraiment besoin de vous donner en retour ce que vous m'avez donné aujourd'hui.
Très précieux parce que vous avez parfaitement dit ça, reboucler, hein,
je suis pas sûre que j'ai vraiment envie d'aller explorer le texte de Foucault pour lui-même. Et effectivement, cette fin de Foucault, qui est une fausse fin, comme toujours, hein, parce qu'on sent vraiment qu'il a été arrêté en plein vol, d'une certaine façon, et que les développements historiques, en fait, hein, d'histoire de la philosophie, des deux derniers tomes de l'histoire de la sexualité, sont plutôt des manières de disposer des strates. Et on se dit, bon, il va se passer. Et voilà, il y avait autre chose là, hein, qui était en train de se construire. Et je crois quand même. Bon, en partie, on est tous extrêmement déçus par ces ouvrages, d'une certaine façon. Hein. On est déçus parce qu'on lit l'histoire de la philosophie et on se dit c'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre que Foucault, ça se termine dans le stoïcisme. Hein, voilà. On est un peu. Voilà. Et en même temps, je crois que si on essaie de revenir à Kant et à cette idée qu'au fond, le jugement, chez Kant déjà, est une pratique. C'est-à-dire, au fond, ce que Foucault essaie de comprendre, c'est ça. C'est-à-dire, tout en sortant, je crois, du transcendantal, hein, ça c'est tout à fait clair, mais il y a quand même l'idée, au fond, qu'est-ce que c'est que la réflexion comme pratique, hein, à la fois dans le sillage de Kant, c'est-à-dire quels sont les montages subjectifs, hein, qui font, hein, qui constituent la pratique du jugement. Et au fond, là où on trouve effectivement dans l'histoire une expérience de soi, en termes qui n'est pas facultataire, hein, mais d'appréhension de la distinction entre les affects, les émotions, les instances de décision, hein, une espèce de décomposition quand même. Hein, il suffit de relire l'éthique d'Aristote, etc., hein, pour voir cette extraordinaire finesse d'appréhension de la subjectivation en tant que telle, à un moment où on pourrait dire le sujet, ça n'existe pas. Hein. Donc, on est simplement en train de construire la chose pour la rendre pensable. Hein, et donc, on désigne les fonctions. Hein, c'est pas de la reconstruction comme Kant, c'est plutôt de l'édification, hein, du sujet, mais vraiment, là, ça naît, quoi. Hein. Et on voit qu'on retrouve, en fait, effectivement, beaucoup de correspondances avec les facultés kantiennes, hein, dans cette méditation des stoïciens, notamment sur les éléments, hein, de l'expérience de soi et les pratiques et les techniques, hein, qui sont les techniques du soi. Hein. Et je pense que chez Kant, et alors évidemment chez Kant, il n'y a jamais mention de technique de soi chez Kant. Hein. Mais néanmoins, moi c'est pour ça que le texte de Kant m'importe à ce point.
Malgré tout, parce qu'il y a la loi morale qui fait partage.
Voilà.
À certains égards, la pratique, elle n'a rien à faire avec le jugement. Dans le Kant canonique, la pratique, c'est la seconde,
oui,
critique, et voilà.
Mais néanmoins.
C'est en rebricolant les choses autrement à partir de l'expérience.
Voilà, oui. Néanmoins, bien sûr. Alors c'est vrai que moi, à mon approche, c'est pour ça que je l'ai dit au début. Elle est très, comme ça, elle est très post-deleuzienne, hein, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire, vraiment, je m'inscris dans ce sillage-là parce qu'il me satisfait. Et il me satisfait pourquoi? Pourquoi est-ce que je me suis inscrite dans cette chose-là? C'est parce que, en fait, j'ai toujours été frappée de la profonde intuition qu'avait Kant de l'art, bizarrement. Alors qu'il n'en parle pas, et que lorsqu'il en parle, c'est assez atterrant, si je puis dire. Néanmoins, dans la construction du jugement de goût, hein, et dans tout ce qu'il peut dire des modes, j'allais dire, à la fois dialectiques, passifs, actifs, du jugement, de la balance intérieure, etc., je pense que ce sont des choses qui sont mises en jeu fondamentalement dans les pratiques artistiques. Et qu'en ce sens, il a un sentiment extrêmement juste de ce qui est en jeu dans l'art, en fait, comme pratique de soi, et d'ailleurs qui n'a rien à voir avec l'art en soi, mais que l'art est obligé d'hystériser pour produire. Hein, c'est-à-dire que les artistes, hein, sont des machines à emphatiser, on va dire, ces mécanismes de subjectivation, parce qu'ils leur font produire autre chose que ce qu'on produit dans la vie normale, d'une certaine façon, ils leur font produire des formes. Et chez eux, le jugement est primordial. Et ils travaillent, j'allais dire, pathologiquement le jugement, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ils sont dans ces processus de subjectivation, ils les analysent à fond, d'une certaine façon. Ils en font véritablement des instruments d'équilibre intérieur, de déséquilibre intérieur. Bon, il suffit de travailler un peu avec les artistes pour entendre ça tout le temps. C'est-à-dire cette auto-écoute du mouvement de la réflexion, de la constitution du jugement, le caractère absolument indissociable de la constitution du jugement et du sentiment, et de l'appréhension d'un équilibre en soi. Je pense que ça fait partie, c'est absolument fondamental dans la pratique artistique. D'où c'est ça au fond, c'est en lisant Kant, les choses sur la satisfaction des intéressés, etc., etc., ça me paraît criant de vérité. C'est-à-dire, ça me paraît parler de l'art admirablement, contrairement à ce que dit Nietzsche, par exemple. Moi, je pense que ça parle absolument, mais génialement, de l'art. Et c'est ça qui au fond, m'a aiguillé sur cette piste, cette lecture, évidemment, un peu iconoclaste, si on se réfère à l'histoire de la philosophie traditionnelle, du jugement comme pratique. Au fond, Foucault est arrivé plutôt comme une espèce de confirmation ou de développement de ce que j'intuitionnais chez Kant. Et la façon dont, effectivement, Foucault appuie sa définition de l'Aufklärung sur le dandysme baudelairien m'a paru une espèce de confirmation, finalement, de ce que, j'entendais, enfin, dans l'articulation qui fait Baudelaire-Kant, moi, ça m'a confirmé dans la lecture que j'avais de Kant. Voilà. Mais je ne suis, au fond, ce que je voudrais qu'on fasse maintenant qu'on a un petit peu. Dans un deuxième temps, finalement, après avoir mis en... Et on n'a pas fini, d'ailleurs, dans ce mouvement, on a encore au moins deux séances pour l'élaborer. Je pense que dans un deuxième temps, certainement, qu'on en viendra à une certaine prise de distance par rapport à Foucault. Et notamment par rapport à la notion de technique de soi. Puisque moi, j'aimerais bien montrer, finalement, ça va être un peu le deuxième épisode de l'introduction, que ce que précisément Foucault ne pense pas véritablement, c'est la technique. Paradoxalement. C'est-à-dire, la technique de soi, ce n'est pas une pensée de la technique. Voilà. Et moi, j'aimerais introduire la question de la technique là où Foucault la passe à l'as, tout simplement parce que l'objet de Foucault, c'est le 19e siècle. Et donc, il ne pense que, finalement, qu'il y a un état de la technique assez embryonnaire, finalement. Il pense la production à un moment où la production fait intervenir des éléments relativement simples, je veux dire, et qui étaient déjà vrais avec la techné grecque, et qui ne sont plus tout vrais à partir du début du XXe siècle, lorsque les technologies de la mémoire prennent, j'allais dire, en charge les technologies de la production. Et là, on peut dire qu'on passe à un niveau de la technologie que Foucault, malgré les hypomnémata, ne pense pas du tout. Et moi, j'aimerais arriver ensuite à une critique de Foucault, enfin, critique, on s'entend, sur ce point-là, pour arriver à nous conduire à une actualisation de la problématique sur un terrain tout à fait contemporain, qui sont effectivement, à partir du moment où on pense la pratique avec ces technologies de la mémoire, voilà, comment est-ce que la question se reformule Donc c'est vrai que moi, j'avais pas l'intention, j'allais dire, de m'embourber dans la suite de Foucault. J'avais juste l'intention de m'appuyer sur ce texte-là, qui se trouve est une bonne... voilà, pour ensuite aller au-delà. C'était un peu le mouvement. Voilà.
La parole aussi à des questions urgentes, mais juste une toute petite. C'est un vrai problème de rôle. Dans quelle mesure ce concept de pratique ne rend pas inutile, ou en tout cas contingent, contingente, l'idée de production de production en tant que l'art se définit comme production depuis toujours. D'une certaine manière, depuis Platon, Descartes, depuis Platon.
Attendez, je
comprends pas. Bon, je fais un geste, j'ai pas voulu parler de
ce moment-là. Oui, non, mais c'est
désolé. Mais voilà, je vais reformuler la question. En quoi pratique et production peuvent-elles s'articuler dès lors qu'on a comme horizon d'objet l'art? Voilà.
Oui.
c'est une question dont j'espère qu'on va la développer grâce aux artistes qui vont venir, hein, dont Dion Doulis qui est là, et essayer de précisément démarquer le concept de pratique du concept de production. Hein, bien sûr, ça, je crois que ça fait partie des... ça fait partie du projet du séminaire, hein, de bien distinguer les concepts de pratique et de production, tout à fait. Puisque, d'une certaine façon, ça n'a rien à voir, hein, si je puis dire. Hein, voilà, ça n'a rien à voir. Donc,
ça fait partie du programme. Tout à fait.
Une question annexe par rapport à l'annonce. Donc, je m'appelle George Collins. Et j'ai une question annexe par rapport donc à un début du séminaire qui est donc d'établir une séparation entre pratique et production. J'aimerais savoir ce qu'il en est du concept d'usage. Et est-ce qu'il faudrait séparer aussi la pratique de la notion d'usage ?
Merci. Oui, bien sûr. Hein, je pense que... D'abord, il me semble que la notion d'usage oui, là encore, c'est comme la notion de production. Je pense que la notion d'usage ta question, en fait, ne fait sens que par rapport à Foucault, en réalité. Enfin, elle fait essentiellement sens par rapport à Foucault. Hein, c'est-à-dire, c'est surtout Foucault, à propos de Foucault, qu'on pourrait se poser la question de savoir si la pratique relève de l'usage ou si l'usage relève de la pratique. D'ailleurs, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait poser la question. Hein. Moi, j'allais dire que l'usage ne relève pas de la pratique. Pourquoi ? Parce que dans l'usage, il n'y a aucune espèce de processus épistémologique qui est mis en jeu. Alors que, comme j'ai essayé de le montrer là tout à l'heure, dans la pratique foucaldienne, il s'agit d'un processus de réflexion, hein, de la mise en œuvre d'une réflexion dont l'enjeu est véritablement la connaissance de nous-mêmes. Aucun usage n'a jamais eu pour finalité de se connaître soi-même. L'usage est plutôt... Je ne veux pas dire que l'usage ne peut pas aboutir à une certaine connaissance de soi, mais ce n'est pas ce qu'il détermine. L'usage est plutôt tourné vers la connaissance du monde, d'une certaine façon. Ce n'est pas une activité, en ce sens, qui relève du jugement. C'est-à-dire que l'usage se rapporte plutôt aux objets qu'aux sujets. À la différence de la pratique qui se rapporte plutôt aux sujets qu'aux objets. En ce sens, là, on retombe sur ce qu'on a dit à propos de Kant tout à l'heure. Je crois que c'est comme ça que je répondrai, en tout cas dans un premier temps.
Je vais poser une question. Je m'appelle Manuel Siroki. Ma question est... prend comme point de départ une remarque qui en même temps a été nuancée par ma réaction à l'intervention de monsieur. Et en fait, la remarque est très simple, c'est que je trouve tout à fait approprié de parler d'attitude par rapport à la modernité et qu'il y a un fait qui le confirme, et c'est l'exposition d'Arasimane. Quand les attitudes deviennent formes. Ça montre dans quelle mesure il y a cette espèce d'épurement de la production envers quelque chose qui est beaucoup plus subtil et qui relève de l'essence du moderne. Or, il y a quelque chose qui pose problème là-dedans, et c'est que dans cette exposition-là, et si l'on veut que cette exposition soit considérée comme une espèce de déclaration des faits, et que déjà, on prend en compte des œuvres post-conceptuelles, c'est-à-dire qui assument non seulement l'échec du conceptuel, mais une ironie par rapport à ce nihilisme ironique qui se voit soi-même et qui tombe en dérision. Donc, j'aimerais bien que vous nous donniez une vision de ce paradoxe à l'intérieur de cette espèce de modernité épurée de l'attitude qui en même temps contient déjà un échec de l'ironie.
Oui, alors ça c'est une question effectivement extrêmement, extrêmement subtile, hein, de se dire au fond l'attitude aurait été peut-être ce qui prendrait la place de la production, hein, si j'ai bien compris. mais donc il y aurait une grande positivité dans la réflexion du présent. Qu'en est-il de moi aujourd'hui, hein? Qu'en est-il de l'aujourd'hui aujourd'hui? Il y a un sérieux, il y a une positivité de ce qui a lieu. Et en même temps, dans cette ironie au deuxième degré, hein, de l'art post-conceptuel, hein, qui effectivement était dans l'exposition « Quand les attitudes deviennent formes », on a bien quelque chose de l'attitude. Bien sûr, c'est une attitude elle-même à la puissance 2, d'une certaine façon. Hein, c'est une attitude d'attitude, puisque c'est une attitude qui mime une ironie qui est elle-même une attitude par rapport à l'attitude moderne. Donc vous voyez, on est même déjà au troisième degré. On est dans un mouvement tout à fait effectivement inverse, au sens où il n'y a rien à attendre de cette attitude. C'est au fond l'attitude de Baudelaire, le dandy, il y a quelque chose à attendre de cette attitude, d'accord ? Mais déjà dans l'attitude conceptuelle, il n'y a déjà plus grand chose à attendre. Quant à l'attitude, j'allais dire post-conceptuelle, c'est-à-dire l'ironie par rapport au nihilisme même, elle nous dit que surtout il ne faut rien attendre d'elle, hein, et elle se moque de nous qui éventuellement attendrions de cette attitude ironique une espèce de surcroît d'ironie, une capacité à assumer notre propre nihilisme. Ce paradoxe, moi j'y vois la manière dont la modernité s'est ratée elle-même, hein, c'est-à-dire dont la modernité et c'est pourquoi disons j'entame sur la question du jugement à partir de ce texte de Kant et de Foucault, c'est l'idée que la modernité, il n'y a pas de contenu à la critique. À partir du moment où on postule un contenu à la critique, on se met dans cette position du dogmatisme, hein, où on oppose, on se met dans la situation d'opposer un idéal à la réalité. Voilà. Et tant qu'on est dans cette position et donc dans cette opposition de l'être et du devoir-être, j'allais dire qu'on est foutu d'une certaine façon. Hein. On est conduit à l'impuissance. C'est-à-dire qu'on la programme, l'impuissance. Hein. Cette antinomie programme de l'impuissance. Ce qui est intéressant finalement, c'est de voir à travers ce texte de Foucault, sa lecture de Kant, la lecture de Kant qu'on a essayé de refaire à partir de là, c'est de voir que l'Aufklärung est beaucoup plus compliquée. Hein. On a beaucoup identifié Aufklärung, par exemple, et théorie du progrès, philosophie du progrès. Bon. Si on lit Kant à la lumière de Foucault, et je crois que c'est en partie justifié, et à la lumière de cette interrogation sur le présent, qui justement est coupée complètement de tout progressisme et de toute finalité, hein, on s'aperçoit que l'Aufklärung, c'est tout à fait autre chose. Hein. Ce paradoxe dont vous parlez, c'est véritablement plutôt une espèce de méprise, hein, ou de simplification des enjeux de la modernité, ou plutôt c'est cette espèce d'étrange, ça nous renvoie à cette étrange torsion romantique de la modernité, dont nous sommes, à mon avis, encore partiellement, hein, les victimes, hein, dans notre désir d'être moderne, et que nous avons énormément de mal à décapsuler. Hein. On a du mal à sortir du romantisme et du post-romantisme. Hein. On a véritablement du mal à sortir de cette chose-là, parce que, hein, je crois que... elle est liée, et je reviens à mon point de départ, elle est liée à une illusion identitaire, hein, à une illusion métaphysique qui, ce bouchon du sujet, hein, et du sujet unitaire, hein, qui est sans doute l'une des choses dont l'humanité a le plus de difficultés à se sortir. Hein. C'est l'idée de la vie comme expérimentation, hein. L'idée l'immanence de la surface, hein, l'idée le désir de non-constitution de l'expérience en objet, enfin toutes ces choses-là qui sont finalement au cœur, hein, de la problématique, c'est, je crois, en tout cas dans la tradition occidentale, c'est les choses les plus difficiles à penser, hein, les plus, voilà. Et je pense que c'est aussi parce que, enfin, psychiquement, ça suppose un rapport à la castration extrêmement élaboré, qui, s'il n'est pas élaboré par la culture, les individus ne peuvent pas faire le travail eux-mêmes, de toute façon. Or, notre culture ne nous invite pas du tout à ça, hein. Notre culture est une culture de la production, de l'objet, etc., d'une limite, c'est-à-dire d'une castration qui est performée par une objectivation, hein. Et je pense que, voilà, je pense qu'on est confronté à une espèce de, de limites presque civilisationnelles. Hein. Moi, c'est un peu comme ça que je vois cette chose-là. D'où cette méprise de la modernité sur elle-même, ou plutôt cette tendance dans la modernité à avoir surdéveloppé, j'allais dire, le versant romantique par rapport à ce qui était en germe chez Kant, hein, et qui était peut-être, en tout cas c'est ce que Foucault semble dire, c'est la piste qu'il propose, c'est peut-être celle qui n'a pas pris jusqu'au bout, en tout cas ce qu'on peut comprendre du bout, c'était peut-être la voie d'une issue, et à une issue pas tellement à la modernité ou à ses apories, mais bien plutôt aux apories d'une certaine tradition occidentale, hein, et ce que Foucault sans doute d'ailleurs met en question, c'est pour ça qu'il est si important pour les Culture Studies, hein, c'est sans doute quelque chose de l'Occident en soi, hein, c'est pourquoi il est important.
Lambert de Sang.
Il y a deux points de votre exposé où j'achoppe un peu. En fait, c'est les deux points où le mot désir apparaît. À propos de Kant, mais je pense que c'est pour des questions kantiennes, en fait. Mais c'est surtout, en fait, quand Foucault introduit la question de Baudelaire du dandysme, où vous avez dit donc la pratique de soi dans le dandysme, hein, c'est un pouvoir de désirer et un pouvoir qui se réfléchit dans une pratique. Et j'avais l'impression, en fait, que ce passage de Kant à Baudelaire chez Foucault était un peu une opération de forçage. Tout simplement, bah, peut-être d'une manière un peu naïve, c'est que le dandy peut représenter au premier abord une sorte de pratique de soi qui échapperait aux normes, mais qui en même temps se retourne à cette possibilité de se retourner totalement en pure immersion dans la norme, dans la mode, etc. Donc, ce qui fait que ça devient difficile, en fait, de distinguer une pratique de soi qui soit entre guillemets transgressive et une pratique, mais qui n'est pas forcément une pratique de soi d'ailleurs, qui soit pour le coup totalement normativisée ou normée. Et voilà, qu'est-ce qui va nous permettre de distinguer une pratique, disons, émancipatrice, même si le mot est mal choisi, d'une pratique aliénante. Même si les deux termes fonctionnent mal.
Je peux ouvrir une parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais il vient donc de reproduire quasi textuellement l'objection de Habermas à cette construction de Foucault dans Qu'est-ce que les Lumières ? C'est très exactement, Habermas dira, mais enfin, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Baudelaire ? C'est l'esthétisation de l'existence au moment précis où on pensait pouvoir en sortir.
Alors, il y a deux points, Lambert, sur lesquels je voudrais. Il y a deux choses. Hein, ce que vous me dites, c'est effectivement, j'ai opéré une espèce de saut un peu rapide de ce passage sur le dandysme au pouvoir de désirer. Hein, parce qu'effectivement, je retrouve dans. Qu'est-ce que c'est que le dandysme, hein? Le dandysme, c'est une manière de. De même que ce que Kant découvre, au fond, hein, à travers le respect, hein, le sentiment du respect. C'est le fait que le désir est déterminé par le plaisir, hein, par le sentiment. Et que donc, d'une certaine façon, le désir est un produit secondaire par rapport au plaisir. Hein, ou par rapport, d'ailleurs, au déplaisir. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, il y a tout ce travail d'élaboration de soi-même, on peut dire, hein, en tout cas d'auto-appréhension, de jeu des facultés réfléchies, hein, à travers la forme indéterminée, qui donne finalement, dont émane, hein, le désir. Le désir émane d'un certain travail. Et je crois que c'est tout l'enjeu du dandysme. Hein, l'enjeu de l'ascèse dandy, hein, c'est de secondariser, ce qui est perçu souvent comme premier, hein, c'est-à-dire de travailler à la construction du désir. Ce qui porte le dandy comme utopie, on va dire, ou peut-être pas comme utopie, hein, c'est la question, enfin ce qui a semblé utopique d'une certaine façon, hein, C'est véritablement l'idée que nous construisons notre désir de part en part. C'est-à-dire que tout est possible sur mon corps, par exemple. Hein? Les queers, hein, les dandys queers contemporains, c'est ça. C'est-à-dire, je peux tout sur mon corps. J'invente ma sexualité de A jusqu'à Z, d'accord, hein? C'est-à-dire, je la fabrique. Hein? J'en expérimente, j'allais dire, les ressorts matériels et je les construis a priori exactement comme je le désire. C'est-à-dire, je fabrique hein, les coordonnées de mon désir parce que je sais que de ces coordonnées nouvelles, hein, expérimentales, vont émerger des nouveaux désirs, des nouvelles. Hein, des, voilà. Et que, au fond, voilà, c'est ce que je n'ai pas dit, hein, parce que, voilà, parce que sans doute, je voulais aussi nous laisser le temps de discuter. Donc j'ai un petit peu, puis je savais qu'on reviendrait sur tout ce que je disais, donc c'était moins important. Pour revenir à ce que vous disiez ensuite, je pense qu'il y a une erreur chez vous, c'est de penser que le dandy a du rapport à la norme ou à la mode. Pas du tout. Hein. Le dandy n'a aucun rapport à la mode. Hein. Le dandy, et Baudelaire le dit très bien, enfin le dandy tel que Baudelaire le pense, qui n'est pas le dandy de Brummel. Hein. C'est un concept de dandy qui n'est pas une catégorie, disons, socio-historique, on va dire. Hein, c'est pas, bon. Il dit bien, le dandy se moque de la mode. Il le dit littéralement. Dans le, hein. Donc, je ne pense pas que là, la question d'une pratique aliénante ou d'une pratique émancipatrice... disons, se pose vraiment. Hein. Je pense que par contre, ce que disait Georges, à savoir la question de l'esthétisation de l'existence, hein, se pose, sauf que dans ce terme d'esthétisation, on n'est pas forcé d'entendre quelque chose de si négatif que ça. C'est-à-dire que dans esthétisation de l'existence, on peut entendre esthète, hein, voilà, c'est-à-dire une espèce d'existence à la fois artificielle et... presque purement décorative, on va dire, hein. Kitsch, hein, on peut dire que une espèce de devenir kitsch du sujet, etc. Bon, mais on peut comprendre l'esthétisation comme tout à fait autrement. On peut dire l'esthétisation qui est mise en jeu par le dandy, c'est une manière de complètement intérioriser la condition moderne et toutes les prothèses qui sont en train de s'ajouter hein, au corps du sujet moderne hein, et toutes ces possibilités nouvelles, hein, de toutes ces complémentations. De nous-mêmes, eh bien, on va les intégrer dans des pratiques de soi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'esthétisation, c'est aussi le devenir esthétique, c'est aussi ce qui nous est proposé par la technique. La technique nous transforme en sujet esthétisé et fait de notre existence une existence esthétisée par définition. Ça, c'est l'effet de l'intégration de la technologie à l'expérience. Vous voyez ? Donc, j'entends bien votre l'objection. Alors, effectivement, c'est l'objection. Vous avez raison, d'Habermas, et je pense que la semaine prochaine, on discutera de ça. Mais je suis pas sûre de. En tout cas, je suis pas sûre de pouvoir accepter les termes de la question comme vous les formulez là. Voilà. Il y avait une dernière question, et puis après, on arrête. Voilà.
Mon nom est Gabriel Cabello. Je m'excuse pour mon français parce que ce n'est pas parfait. Mais non, ça, tout simplement pour souligner quelque chose que vous avez déjà souligné, c'est que dans Baudelaire, les dandys font toujours de la distance, c'est comme les flâneurs. Les dandys toujours travaillent la distance, c'est qu'ils se rapprochent, mais en même temps prennent la distance avec la mode et l'expérience du temps immédiat. Non, c'est ça, tout simplement pour vous souligner ça. Non, et l'autre question est très. La question est que c'est très, peut-être trop général. Non, c'est une question sur. Sur l'esthétisation comme telle, non? Qu'est-ce qu'on peut dire, okay, peut-être c'est différent. Ça, faut simplement pour souligner ça, mais vous l'avez dit déjà. Donc,
oui, ça, l'esthétisation comme telle, on va définir, à partir du moment où on a un petit peu plus grand, il y a toute la technologie. Ça, on va évidemment parler de ça. Dans la pratique, il y a tout le temps beaucoup de l'esthétisation comme possibilité de trouver. Et je vous dis à vendredi prochain, 14h30, voilà, avec Françoise Gaillard. Donc,